Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, tous les médias et toutes les formes de culture. Nos indispensables du jour, une double découverte musicale, une sorte de mélange. Et on va vous dire ce que vaut vraiment le film Dune. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur Europe1.fr. Notre infomédia va se pencher sur la peine de mort dans l'état du Texas aux USA. La journaliste et réalisatrice Sabrina Van Tassel a réussi à rencontrer la première femme hispano-américaine à avoir été condamnée à mort au Texas. Elle en a fait un documentaire, L'État du Texas contre Melissa, et c'est assez rare pour le signaler, documentaire qui sort demain au cinéma. Les caméras de télévision sont interdites dans les prétoires, mais pas les dessins de presse. C'est grâce à eux que l'on peut voir le visage de Salah Abdeslam dans le procès fleuve des attentats du Bataclan. Que peut dire un dessin que ne peut pas montrer une vidéo ? Réponse avec Elisabeth de Pourquerie qui dessine pour France Télévisions et l'auteur de BD François Bouc qui a suivi le procès de la tuerie de Charlie Hebdo. Enfin, le romancier et critique littéraire Frédéric Becbédé qui a inventé le premier DJ set littéraire. C'est quoi exactement ? Ben, il va nous expliquer. Ce que je peux révéler, c'est que ça fait du bruit. Il y aura également son portrait d'avant la célébrité, le portrait pré-fame avec Lisa Marie Marquez. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias, Louise.
Une entrée au capital de TF1, TikTok qui éduque pour lutter contre les fake news, les influenceurs épinglés dans une étude, RMC Story qui lance sa deuxième saison de La Face Cachée 2, et puis deux petites actualités séries qui vont faire plaisir à certains et certaines d'entre vous. Ce sera à la fin du journal.
Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Encore une fois cette semaine, ils ont regardé M6 et L'Amour est dans le Pré. 4 230 000 téléspectateurs, c'est en hausse encore cette semaine. 19,3% de part d'audience. Deuxième France 2 avec un bon score pour le téléfilm inédit Les Héritiers. 3 360 000 téléspectateurs, 16,1% de part d'audience. Ça permet à France 2 et à M6 donc de battre TF1 et Joséphine Ange-Gardien qui proposait pourtant un épisode inédit. 3 millions de téléspectateurs, 13,7% de part d'audience. C'est moins bien que ce qu'a fait Joséphine la dernière fois que ça a été diffusé. Et puis à noter que Arte, W9, et je regarde en même temps que je vous parle, je crois que TMC aussi, oui. Non, pas TMC. Arte et W9 sont au-dessus du million. Chacun diffusait un film différent hier soir.
Culture Média. Et on démarre ce journal des médias avec une information économique. Daniel Kretinsky entre au capital de TF1.
Il monte à 5% au capital, information du journal Les Échos. Le milliardaire tchèque dit avoir confiance en l'économie française et il croit beaucoup en la possible fusion de TF1 avec M6. D'ailleurs, il avait été candidat au printemps dernier pour racheter M6. Une fusion qui permettrait, selon lui, d'avoir une capacité de résistance face aux GAFA. Alors, il précise aux Échos que son investissement est totalement indépendant de ses autres médias français. Vous savez, c'est ceux du groupe CMI, notamment Elle, Marianne, Télé 7 jours, entre autres. Et puis que sa montée au capital s'est faite sans concertation avec le groupe Bouygues, mais n'est en aucune façon hostile, au contraire.
On quitte la télévision pour les réseaux sociaux. TikTok France lance un programme de sensibilisation à l'information.
Ouais, TikTok fait partie de ces réseaux sociaux très critiqués pour leur responsabilité dans la diffusion de fausses informations. Alors il a décidé d'agir. Agir en lançant Esprit Critique, TIK comme TikTok, un programme créé avec des experts et des associations pour tenter de lutter contre cette désinformation, inciter les utilisateurs à développer leur esprit critique pour s'interroger quand ils se retrouvent face à des contenus qui peuvent circuler sur ce réseau social. C'est un enjeu crucial en cette période de pandémie et puis à l'approche des élections présidentielles évidemment, d'autant plus que les utilisateurs de TikTok sont très jeunes, souvent, majoritairement même, et donc TikTok entend faire preuve de pédagogie en proposant des quiz et puis des vidéos comme celle-ci.
Boire de l'eau salée toutes les 15 minutes empêche d'avoir le coronavirus. Merci pour l'info, je commence maintenant et je partage tout de suite à mes amis. T'es sérieux là ? T'as commenté, t'as diffusé, comme ça, sans prendre le temps de vérifier. Avant de croire en une information, il faut savoir d'où elle vient. Qui l'a écrite ? Un journaliste ? Un politique ? Un écrivain ? As-tu lu à propos du site ? Qui en parle et comment ? Par exemple, en février 2017, en Russie, un homme alcoolisé agresse une infirmière. Quelques jours plus tard, est partagé sur fond de racisme évident la vidéo de l'agression, en faisant croire que c'est un migrant qui agresse une infirmière en France. Des reportages, sans vérification, participent à la manipulation.
Voilà, donc très pédagogique. Et puis TikTok organise dans ce sens deux lives dans les jours à venir. Un avec l'équipe de l'émission Vrai ou Fake de la chaîne France Info. Ils sont spécialisés dans la lutte contre les fake news. Ça, ce sera vendredi à 18h. Et puis un autre live avec cette fois la rédaction du journal Le Monde pour bien comprendre la fabrique de l'information. Ça, c'est lundi à 18h.
Réseaux sociaux toujours, plus d'un quart des influenceurs font de la publicité déguisée.
Oui, les influenceurs, ce sont ceux qui vendent des produits grâce à leur notoriété sur les réseaux sociaux. Plus ils ont d'abonnés qui les suivent, plus ils touchent des sommes importantes pour mettre en avant des produits. Ça se fait via des publications de photos ou vidéos. Mais certains ne sont pas tout à fait transparents. Ils ne mentionnent pas toujours qu'il s'agit de partenariats avec des marques, partenariats rémunérés. Et donc, aux yeux de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, eh bien, il s'agit de publicité déguisée. Une étude publiée hier montre justement que plus d'un quart des influenceurs sont concernés, 26,6%. Et dans le détail, ceux qui se livrent à ces pratiques sont en majorité les plus petits comptes, en dessous de 100 000 abonnés. C'est quand même beaucoup, 100 000. Ouais. Mais parmi les plus importants, c'est-à-dire plus d'un million d'abonnés, il serait quand même autour de 12% à ne pas respecter la loi. En fait, dès lors qu'un influenceur publie du contenu sponsorisé, il doit l'indiquer clairement, soit avec des mentions hashtag partenariat ou hashtag sponsoring, soit avec une indication visuelle ou audio au début des contenus. Sinon, il risque jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende.
On attend de voir un influenceur en prison pendant 2 ans. RMC Story lance ce soir sa nouvelle saison de La face cachée de 3 petits points.
Ouais, c'est une collection de documentaires qui s'intéresse au parcours des personnalités médiatiques. La saison dernière, il y avait eu Didier Raoult, Laetitia Hallyday, Vladimir Poutine, Christian Quesada, Loana, etc. Cette année, RMC Story proposera les portraits de Nabila, Diams, Claude François, Tom Cruise, entre autres. Le tout présenté par Rachid Embarki.
En général, ce sont des personnalités qui sont fortes et parfois clivantes. C'est ça qui nous intéresse, c'est d'aller regarder un petit peu ce qui se cache derrière, quoi. Et sans faire du voyeurisme non plus, en donnant des informations, un certain nombre d'informations qui peuvent être intéressantes et qui sont peu ou jamais abordé.
Une émission d'un peu plus d'une heure chaque mardi. Ce soir, c'est le documentaire sur Nabila qui lance cette nouvelle saison. Tiens, on parlait des influenceurs tout à l'heure. D'ailleurs, Nabila avait été épinglée pour publicité déguisée récemment. Documentaire qui, là, s'est intéressée à son côté femme d'affaires.
Elle ne s'en cache pas. Et au contraire, même, elle est multimillionnaire. Elle vit une vie de strass et de plaisir que peuvent s'offrir les gens qui sont fortunés. Mais au départ, elle est partie de rien. Et donc, on a essayé de comprendre comment on est en arrivé là et de décortiquer un petit peu ce côté businesswoman. C'est intéressant pour les jeunes, ceux qui la suivent, d'essayer d'en savoir davantage. Et puis, c'est intéressant aussi peut-être pour les parents de comprendre pourquoi.
Voilà, parents et jeunes, rendez-vous ce soir donc devant la nouvelle saison de La face cachée 2 sur RMC Story à 21h05, canal 23.
Et on termine avec les deux bonnes nouvelles annoncées par vous, l'actualité des séries en bref.
Gossip Girl. nouvelle version de Gossip Girl renouvelée pour une deuxième saison. La première n'est pourtant pas finie d'être diffusée aux États-Unis, mais ce reboot, pourtant très critiqué, connaît finalement de très bonnes audiences, suffisamment pour donner une suite à la série. Ouais, ce générique, il va résonner à nouveau dans vos salons après 2 ans d'attente. Enfin, oui, on connaît la date de mise en ligne de la nouvelle saison de la série Succession, la 3e. Ce sera le 17 octobre aux États-Unis et donc 24 heures plus tard en France sur OCS. Un épisode par semaine seulement, à l'ancienne, hein, pas de binge-watching possible. Série très appréciée, multi-récompensée, qui raconte les conflits et même la guerre, on peut le dire, que se livre la riche et puissante famille Roy. Famille Roy, guerre pour savoir qui des enfants prendra la succession du père, qui est à la tête d'un empire médiatique. Une série que je vous recommande chaudement, qui a fait mon petit bonheur pendant le premier confinement. Ouais. Voilà pour le conseil du jour.
Voilà, merci pour ce conseil. Puis à l'ancienne aussi, la télé dans le salon. Merci Louise Bernard. Toutes
ou
ces infos à retrouver
sur
europe1.fr. C'est la newsletter média. À demain, Louise, pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour avec un documentaire stupéfiant, enquête sur la première femme hispano-américaine condamnée à mort au Texas pour infanticide. Depuis 2007, elle attend toujours son dernier jour et tout semble montrer que le procès n'a pas pas été impartial. C'est la thèse de la journaliste et réalisatrice Sabrina Van Tassel qui l'a rencontrée dans le couloir de la mort. Elle sera avec nous dans quelques instants sur Europe 1. A tout de suite.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Demain sort au cinéma un documentaire édifiant consacré à la peine de mort aux États-Unis et notamment dans l'État du Texas. Alors que les condamnés au couloir de la mort sont rarement approchés, même approchables par les médias, la réalisatrice de ce film a au contraire pu échanger avec l'une d'elles, plus précisément avec la première femme hispanique condamnée à mort dans cet État américain, Melissa Lucio. Elle a été condamnée à mort en 2007 par l'État du Texas pour le décès de l'un de ses 14 enfants qu'on soupçonne d'avoir été battu à mort. Et alors que tout semble évident sur la culpabilité de cette mère de famille, cela fait maintenant 14 ans que des procédures d'appel sont menées par les deux parties. Comment tourner un documentaire dans le couloir de la mort? Une enquête comme celle-ci dérange-t-elle? Quelles conséquences ensuite? Et si tout cela permettait d'innocenter un condamné avant son dernier jour? Nous en parlons avec Sabrina Van Tassel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et grand reporter. Vous avez signé une trentaine de reportages ainsi que des documentaires comme La Cité Muette en 2015. Vous avez pu rencontrer cette femme, Melissa Lucio, condamnée à mort, dont vous retracez l'affaire dans un film qui sort demain en salle. Je l'ai dit, le titre, je ne l'ai pas encore dit, L'État du Texas contre Melissa. Tout d'abord, film primé de nombreuses et de nombreuses fois. Combien de prix pour ce film?
On en a eu 7. On est à presque 35 sélections en festival et le film sort dans le monde entier en fait.
D'abord, qui est Melissa Lucio, Sabrina Van Tassel?
Donc Melissa Lucio est une femme que tout accuse. Melissa Lucio est pauvre, elle est hispanique, elle a trop d'enfants, elle a un passé de drogue et elle vit donc à Arlingen, à la frontière du Texas et du Mexique. Dans un environnement latino, en fait, tout le monde est latino sur place. Et un jour, en fait, sa petite fille de 2 ans et demi va être retrouvée morte. Elle est morte d'un traumatisme crânien, dont elle a mis plusieurs jours, en fait, pour mourir, et dont la mère, n'a pas vu les signes. Et immédiatement, Melissa Lucio va être arrêtée par la police et conduite au commissariat et à l'issue d'un interrogatoire qui va durer 7 heures, où elle va être vraiment poussée aux aveux, en fait, elle va finalement baisser les armes et dire « je suis responsable ». Je suis responsable des Bleus, mais elle ne dit jamais « j'ai tué ma fille », elle dit « je suis responsable, il faut que ça cesse ». Voilà, elle baisse les armes. Quoi.
Quand vous dites que tout accuse, y compris votre montage, l'accuse Melissa, puisque le montage, c'est l'interrogatoire qui est filmé, vous nous expliquerez pourquoi et comment, parce que c'est rare, enfin on voit jamais ça en France, un interrogatoire filmé, en tout cas, si c'est filmé, c'est gardé par la justice et non diffusé, et le policier demande à cette maman de montrer comment elle a battu son bébé avec un faux bébé en plastique, et là, réellement, tout l'accuse.
Alors, tout l'accuse, mais si jamais on regarde bien, en fait, cette vidéo, on voit qu'il la pousse à faire tellement de choses. Il lui dit, vas-y, tape-la plus fort, montre-moi comment tu fais.
Dit, moi, je tape plus fort sur ma cuisse, alors voilà. Toi, vous pouvez taper plus fort.
Exactement. Moi, je taperais plus fort. Si jamais j'étais vous, moi, j'aurais tapé plus fort. Mmh. Donc voilà. Donc en fait, moi, évidemment, j'ai voulu montrer ce que les jurés avaient vu. Et pourquoi elle avait été condamnée à mort. Parce que si jamais on lit l'histoire de Melissa Lucio, sur 3 lignes, on a tout compris. Bon, bah voilà, c'est un vulgaire, on va dire, cas de maltraitance infantile, une mère qui a trop d'enfants, qui est droguée, elle a craqué, et puis voilà, on n'en parle plus. Moi-même, quand je suis arrivée sur cette histoire, c'est ce que je croyais. Et puis, l'histoire, évidemment, est bien plus compliquée que ça.
J'aurais qu'on entende la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance. Pardon, mais c'est en anglais, c'est sous-titré, on n'avait pas le choix et on n'allait pas... On l'a traduite. Ah bon, on ne me l'avait pas dit qu'elle avait été traduite, on l'écoute.
Je m'appelle Melissa Elizabeth Lucio. J'ai 48 ans. J'ai 14 enfants. Je suis dans le couloir de la mort depuis 11 ans. On était en période électorale. Armando Villalobos se représentait au poste de procureur général. Je suis la première femme hispanique condamnée à mort. C'était une grosse affaire pour lui. Il était prévu qu'elle soit condamnée. Une mère. Sans ressources, la cible parfaite pour se faire réélire. Ce n'est pas elle la criminelle, c'est eux. Ce sont eux les criminels.
Vous êtes assez impressionné par cette bande-annonce que l'équipe de Culture Média a concoctée et je les félicite.
Bravo. Bravo parce que c'est pas facile, donc pas, c'est pas mal, effectivement.
Très bonne traduction, très bonne diction.
Ouais, franchement, pas,
très bonne
magnifique.
Réaction. Bravo à tous les trois derrière la vitre. Pourquoi avoir choisi de traiter ce sujet, puisque vous dites, quand vous allez sur place, tout l'accuse. Donc si tout l'accuse, il n'y a pas de dramaturgie, il n'y a pas de film.
On est d'accord. Donc moi, en fait, je faisais un reportage pour la télévision et je faisais un reportage sur les femmes condamnées à mort. Et il se trouve qu'au Texas, c'est l'endroit où on exécute le plus. C'est aussi l'endroit où on a le droit d'interviewer des gens dans le couloir de la mort. Donc Mélissa Lucio, pour moi, tout l'accusait. Je n'ai pas vraiment envie... quelque part de traiter cette affaire. Et puis tout a changé en fait quand j'ai retrouvé sa famille et qu'ils m'ont dit tu es la première personne en 13 ans qui vient nous voir. Personne ne nous a jamais posé la moindre question sur Mélissa, aucun de ses avocats n'a jamais voulu nous rencontrer, aucun de ses enfants n'a eu le droit de témoigner à la barre, aucun des voisins, personne. Voilà, Mélissa c'est impossible. Mélissa elle était non violente. Mélissa n'a jamais été violente envers ses enfants.
Mélissa,
c'est pas elle. Voilà. Bon, évidemment tout le monde est innocent en prison, on le sait bien. Donc moi, journaliste que je suis là, bon, ok, très bien. Ils voulaient me montrer les escaliers où la petite fille serait tombée. J'y étais, j'ai vu ces escaliers terribles. Et puis immédiatement, ils commencent à me raconter beaucoup de choses. Ils me disent, tu sais, le procureur général qui est lui-même en prison, celui qui a mis Mélissa dans le couloir de la mort, a pris 13 ans de prison pour corruption, pot de vin, il payait les juges. Bon, très bien, je vérifie, je me rends compte que c'est vrai. Son avocat commis d'office, qui a tout fait pour qu'elle soit là où elle est parti travailler pour le bureau du procureur quelques mois après. Donc évidemment, je trouvais ça très étrange. Et puis, mais vraiment, c'est quand j'ai rencontré Mélissa le lendemain que tout a changé pour moi. C'est-à-dire, je me suis retrouvée en face de cette femme. Il s'est vraiment passé quelque chose entre nous et j'ai décidé de faire un film sur elle.
Comment est cette femme ? L'État du Texas contre Mélissa, film signé Sabrina Van Tassel. On vous raconte la suite et il y a une suite dans la suite et une histoire dans l'histoire. Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Sabrina Van Tassel, L'État du Texas contre Mélissa. C'est le film qu'elle signe, film documentaire, mais qui sort au cinéma. Mélissa, c'est Mélissa Lucio, accusée du meurtre de sa petite fille de 2 ans. On raconte la première scène du film où ses aveux qu'elle fait, mais les aveux, on sent qu'ils ont également peut-être été poussés par ce policier qui l'interroge. Le policier lui demande de mimer les coups qu'elle aurait donnés à sa petite fille, mais là, il les mime sur une poupée. C'est assez difficile à regarder. Il y a même des photos de la petite fille. Pourquoi le choix de montrer ces images assez dures ?
Il fallait montrer pourquoi Mélissa a été condamnée à mort. Et donc, en fait, il fallait montrer les photos parce que Mélissa a été condamnée à mort sur deux choses. Ses aveux extorqués et les photos de la petite. C'est tout ce qu'il y a dans le dossier. Il n'y a pas un témoin. Il n'y a personne qui l'a jamais vue être maltraitante. Même les services sociaux qui la suivaient depuis des années, parce qu'évidemment, elle a été pauvre et qu'elle avait trop d'enfants, n'ont jamais noté qu'elle était agressive ou même maltraitante envers aucun de ses enfants et encore moins la petite. Donc moi, j'ai vraiment voulu montrer et commencer le film à charge contre elle, montrer tous les éléments qui étaient contre elle et que les jurés ont vu. Et donc les jurés ont entendu ça, ont entendu ses aveux et ont vu ces photos qui sont dures à regarder. Mais oui, effectivement, Mélissa et enfin la
fille. Je veux dire, parce qu'on est ici en France et le système français fait que les jurés voient, mais pas le public.
Oui.
Le public voit.
Bah,
le sens de ma question.
Bien sûr. Alors ça, c'est tout. Ça, c'est c'est tous les paradoxes de l'Amérique. C'est-à-dire que on a le droit d'aller à la n'importe quel citoyen a le droit d'aller au poste de police et de demander tout ce que la police a sur une affaire qui a été classée, on va dire, qui a été faite.
Sans même être journaliste.
Exactement.
Dans tous les États ou spécifiquement au Texas?
Comment vous avez réussi
à tourner, justement.
Dans tous les États. Ouais. Donc déjà, d'une part. Après, moi, évidemment, j'ai été en lien avec son avocate, qui m'a donné, en fait, toutes les vidéos d'interrogatoire, j'avais les photos, j'avais tout. Mais de toutes les façons, ça avait déjà été jugé, donc ça fait partie du domaine public.
Non, mais je veux dire par là que c'est un film qui serait absolument impossible à faire avec une affaire française.
Absolument.
On ne peut pas voir ça dans Faites entrer l'accusé.
C'est impossible.
Par exemple, vous l'avez dit en préambule dans la première partie de Culture Média et de cet entretien, La rencontre avec Mélissa Luzio, vous dites que c'est passé quelque chose.
Oui, c'est passé quelque chose. J'avais le droit donc à une heure avec elle. Et d'ailleurs, par la suite, j'avais le droit de l'interviewer une heure tous les trois mois. C'était le deal. Et immédiatement, quand je l'ai rencontrée, donc j'étais la première journaliste, réalisatrice à la rencontrer. Elle n'avait jamais rencontré personne avant. Et je sais pas, je regardais les yeux de cette femme. J'étais assez atterrée, elle parlait tellement bien, elle était tellement calme, elle était tellement vraie, en fait. Elle ne cherchait même pas à vraiment se disculper. Il s'est passé quelque chose entre nous, comme une sorte de coup de foudre. Immédiatement, tout dans mon corps me disait « c'est impossible ». Cette histoire est impossible. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus.
Les gens qui nous écoutent, je me fais leur avocat, vont dire « c'est que vous n'avez pas vu la même personne ». Parce que la première était sous l'emprise de la drogue, et la seconde, j'imagine qu'elle était sevrée.
Oui, effectivement, mais... peu importe, si vous voulez. Mélissa Luzio, elle était suivie depuis 10 ans par les services sociaux où elle était droguée. Elle n'avait jamais, jamais été violente. Les gens ne deviennent pas un monstre du jour au lendemain. Il y a toujours des signes avant-coureurs, malheureusement. Et ça, c'est quelque chose que je sais en étant justement grand reporter, en ayant fait beaucoup d'enquêtes. C'est-à-dire qu'il y a toujours des signes, il y a toujours quelque chose. Et puis, de la même manière, on ne peut pas mentir sur autant d'années. Voilà, c'était tout ça. Mais il s'est passé quelque chose entre nous. Je ne savais pas encore, moi, hein, si elle était innocente ou pas. Hein, Et puis, c'était pas ça le sujet. J'avais envie de faire un film sur cette femme, qu'elle soit coupable ou non.
D'accord. Voilà. Et peu à peu, en détricotant la pelote... Vous faites des découvertes.
Exactement. Et donc, je contacte son avocate qui me dit « on vous a attendu très longtemps. On a attendu très longtemps que les médias s'intéressent à cette affaire. Malheureusement, elle va être exécutée d'ici 9 mois. Donc, si vous voulez faire un film, c'est maintenant. » Et là, elle s'est mise à me balancer des milliers et des milliers de pages, de services sociaux, de documents, de tout, en fait. J'ai eu accès à tout le dossier. Je pense que j'ai lu... peut-être 7000, 8000 pages, j'ai tout disséqué. Et pour me rendre compte qu'il n'y avait non seulement rien, mais de tout ce qui s'était, en fait, tout ce qui s'était passé contre elle, quoi. Je veux dire, elle a littéralement été broyée par le système judiciaire.
On est une émission média, il y a quelque chose de très important. Le film est sorti aux États-Unis,
oui.
Sur la plateforme Hulu, c'est ça ?
C'est ça, c'est ça.
Grosse plateforme concurrente de Netflix, c'est ça. Et vous dites qu'il y a un avant et un après.
Ah oui. Il y a eu un avant et un après, parce que Mélissa Luzio était une anonyme qui était sur le point d'être exécutée. Donc je pense que la famille n'aurait jamais même récupéré le corps parce qu'elle n'avait pas l'argent. Et du jour au lendemain, en fait, son histoire est vue par des millions d'Américains. Elle qui ne recevait pas de courrier, ils ont dû bloquer carrément la distribution de courrier de la prison pendant 2 semaines, tellement il y avait de courrier qui arrivait. Et puis voilà, les gardes et tout le personnel de la prison a vu le film.
Qu'est-ce que ça a changé du point de vue judiciaire ? Quelle est sa situation maintenant ?
Donc tous les appels au Texas ont été... Elle les a perdus. Alors, elle ne les a pas exactement perdus. Elle en a gagné un en 2019. Immédiatement, l'État du Texas a fait appel contre elle. Et elle a reperdu. Donc tous les appels au niveau du Texas, de l'État, sont épuisés. Aujourd'hui, c'est la Cour suprême des États-Unis
qui va juger son cas.
Qui va peut-être écouter son cas. Depuis la diffusion du film aux États-Unis, Innocence Project, qui est une énorme organisation d'avocats qui aide les gens accusés à tort, la plus grosse université de droit américain qui s'appelle à Cornell à New York, et d'anciens procureurs se sont joints à l'affaire de Mélissa.
Quand vous avez des nouvelles, vous nous contactez
Bien sûr. On
fera le round-up de ce qui se passe là-bas. Pardon de cet anglicisme, mais parce qu'on y était. Merci beaucoup Sabrina Van Tassel. Je rappelle, vous êtes journaliste, grand reporter et surtout, ce qui nous concerne aujourd'hui, réalisatrice de L'État du Texas contre Mélissa au cinéma dès demain en salle. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci.
Dans un instant, à parler des dessins de presse dans les procès, nous serons avec les illustrateurs Elisabeth de Pourquerie et le grand dessinateur de BD François Bouc. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour François Bouc. Vous êtes là François Bouc ?
Oui, bonjour Philippe.
Ah, bonjour, vous êtes dessinateur de BD, illustrateur aussi, vous êtes
oui,
chez vous.
Oui, je suis là, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien, vous êtes chez vous du côté de Lille, vous êtes connu pour votre style réaliste, aussi parfois comique. Votre héros le plus connu, oui, je dis ça pour les fans de BD, c'est Jérôme Mouchereau, l'assureur qui est en costume léopard avec un stylo bille dans le nez. Mais vous avez également été accrédité par Charlie Hebdo pour couvrir le procès de la tuerie de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. C'était en janvier 2015. Vous en avez tiré un album avec des comptes rendus de l'écrivain Yannick Enel. Elisabeth de Pourquerie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans ce studio, vous êtes dessinatrice, illustratrice, vous travaillez pour France Télévisions et on peut voir en ce moment vos dessins du procès des attentats du Bataclan, notamment Salah Abdeslam dans les JT de France 2 ou de la 3. Ce qui vous rassemble, c'est cela, tous les deux, être nos yeux dans la salle d'audience alors que les images filmées par les caméras sont interdites à la diffusion. Elles le seront dans 50 ans. Première question, Elisabeth de Pourquerie. Comment vous appelez votre métier, votre activité, des croquis d'audience, comment vous appelez ça ?
Alors moi je suis journaliste dessinatrice d'audience, c'est un terme, c'est important pour moi.
Vous êtes journaliste de la carte de presse ?
Absolument, absolument. Bon, j'ai été le journaliste là depuis très peu grâce au directeur de la rédaction nationale Michel Dumoret qui a décidé de me donner un poste pour ne faire que ça. Donc là je suis dessinatrice, journaliste dessinatrice de presse à plein temps. Pour moi c'est formidable parce que pendant 6 ans j'ai eu plusieurs métiers pour pouvoir exercer ce métier difficile. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est le bonheur.
On va en parler justement, on va parler de cette vocation. Même question pour vous François Bou, comment vous êtes venu à aller tous les jours au procès des attentats islamistes de 2015 ? Je connais une partie de la réponse. Vous aviez déjà couvert le procès dit du Carlton de Lille avec DSK et Dédé La Saumure.
Ben écoutez, vous savez, quand Rhys m'a proposé de le faire, j'ai pas du tout hésité, sans savoir du tout à quoi j'allais m'attendre, et parce qu'il me semblait totalement impossible de refuser de témoigner.
Bien sûr,
sur
mais avant
une
cela,
affaire comme celle-là.
Avant cela, vous aviez couvert, Rhys est le patron de Charlie Hebdo, je le précise, vous aviez déjà couvert le procès du Carlton de Lille. C'était votre premier procès, le Carlton de Lille ?
Oui, tout à fait, tout à fait. C'était aussi une opportunité assez rigolote. Là, bien sûr, l'ambiance n'était pas du tout la même. Mmh. Celle du Carlton était un peu plus, on va pas dire enjouée, parce qu'il y en avait qui avait des peines à devoir supporter à la fin. Mais
il y avait pas mort
malgré
d'homme.
Tout, c'était un petit peu plus. Oui, voilà, il n'y avait pas mort d'homme. C'était un peu plus Prime Sautier.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai suivi également ce procès. C'est
oui,
là que j'ai rencontré avec François.
Vous étiez accrédité, Elisabeth Pourquerie. Juste un peu d'histoire. Savez-vous pourquoi les dessinateurs sont autorisés dans les prétoires et les photographes interdits ?
Alors, ben, vous savez, depuis l'affaire Dominici en 1954, en fait, ça troublait les débats et du coup, ils ont interdit toute photo, tout enregistrement, même sonore, d'un procès. Seuls les dessinateurs, parce qu'ils interprètent la réalité, peuvent se permettre d'assister à un procès.
Je veux dire ça pour les plus jeunes. Gaston Dominici était en 54 accusé d'un triple meurtre et il y avait des perturbations causées par les flashs qui crépitaient. En l'occurrence, pour être précis, des ampoules au magnésium, pour être précis. Je connais déjà votre réponse, je le vois à votre regard, Elisabeth. Est-ce que c'est une bonne chose, selon vous, que les photographies soient interdites dans les prétoires ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a toute cette polémique autour, et cette fameuse loi autour des procès filmés. Mais bon, il n'y a pas à s'inquiéter, puisque de toute façon, le texte n'est pas encore repassé au Sénat. Et même, quand bien même, de toute façon, si ces procès sont filmés, ils le seront après la dernière échéance du procès, après un appel, après que le procès soit jugé.
S'ils sont diffusés, vous voulez dire ?
Voilà, s'ils sont diffusés, oui. Parce que
ils seront filmés, mais pas obligatoirement diffusés.
C'est ça.
Je vais poser la question différemment, je vais la poser à vous, François Bouc, parce que j'ai cet album qui m'a vraiment, vraiment frappé. Les textes sont de Yannick Enel, les dessins sont de vous. Janvier 2015, le procès, c'est édité par Charlie Hebdo, Les Échappés. Les dessins sont saisissants, les regards sont saisissants, avec cet accessoire, qu'on le veuille ou non, le masque qui fait que c'est encore plus prégnant. Qu'est-ce qu'un dessin peut dire qu'une vidéo ne peut pas montrer ?
Ah ben là, je pense que la vidéo est beaucoup plus, on va dire, organique. Elle impose pas d'interprétation possible, alors que le dessin, lui, il est la vibration du dessinateur. Le dessin, c'est le trait du dessinateur, c'est un peu, on pourrait dire, sa chair. Et donc, il intervient avec tout ce qu'il est. Et donc, son ressenti, en plus, la position qu'on occupe dans le tribunal est très très particulière, puisque on est vraiment face à ceux qui vont se présenter au prétoire, à la barre, et on est aussi à proximité des accusés, ce qui fait que la proximité étant très forte, elle imprègne l'intérieur du dessinateur, je dirais. ce qui fait que son trait est un peu comme un oscillographe, hein, qui perçoit ce qui est en train de se passer pour la personne qui se présente soit à la barre ou soit les avocats qui se présentent à la barre ou bien alors les accusés, et le trait et la vibration perceptive de la perception du dessinateur.
Je vais poser la même question à Elisabeth de Pourquerie. Qu'est-ce que vous pouvez montrer que la vidéo ne montre pas?
Alors justement, la chance du dessinateur, c'est qu'on a une place extrêmement privilégiée au sein du tribunal.
Enfin, on aurait pu mettre la caméra à cet endroit.
Hein. Non, parce que bon, il faut se faire
vous lier. Êtes à quelle distance?
On est tout près. Bah, par exemple, pour Abdeslam, moi, je suis à côté de, vraiment, à 50 cm de son visage. Vous voyez, c'est des conditions exceptionnelles.
Vous êtes à 50 cm de Salah Abdeslam?
Il y a une chaise qui est positionnée juste à côté.
Mais j'imaginais pas que vous soyez aussi près, juste pour situer.
Je l'ai repéré dès le départ.
Juste pour situer, dans ce studio, nous sommes à 1m50 de distance.
Voilà. Je suis là.
Et je vais montrer, pendant que vous parlez, je dis pour les gens qui nous regardent sur europe1.fr, les dessins, vous nous avez rapporté les aquarelles. Qu'est-ce que peut monter? Il y a quelque chose qui peut faire peur à certaines personnes dans ce que dit François Bouc, c'est que c'est une interprétation, et ce qu'on demande au journalisme, c'est d'être objectif et non pas interprétatif.
Alors, évidemment, c'est un affrontement. Il y a des questions totalement contradictoires qui vous passent par la tête au moment où vous dessinez. Vous voulez être le plus juste possible, et en même temps, c'est votre vision. Forcément, c'est votre vision qui est subjective. Mais, voilà, ce qui compte dans ce dessin, par exemple, c'est l'attitude de Salah Abdeslam, qui est, qui veut parler, ce qui est quand même étonnant, parce qu'on sait qu'à Bruxelles, il ne voulait pas parler du tout pendant son procès. Là, il veut parler. Il a même été interrompu. Le président de la cour lui a coupé son micro parce qu'il parlait trop. Ouais. Donc, vous voyez, il y a des moments comme ça. Il faut saisir ça. C'est un art sur le vif et il faut vraiment le saisir. Et c'est la chance du dessinateur.
Je saisis ce petit moment de silence pour dire qu'on se retrouve juste après avec Elisabeth de Pourquerie et François Bouc. On va parler de l'émotion que ça ne manque pas de susciter, justement, chez vous, qui devait dessiner. À tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de François Bouc, dessinateur de BD, illustrateur et qui a suivi notamment les procès de janvier 2015, le procès de la tuerie de Charlie Hebdo. Il en a fait un ouvrage avec Yannick Enel. Et avec nous également Elisabeth de Pourquerie qui suit pour France Télévisions le procès qui se tient actuellement avec Salah Abdeslam, dont vous nous disiez qu'il est assis à 50 cm de vous. Juste un mot. Sont des aquarelles, on peut arriver avec son matériel et peindre des aquarelles en plein milieu d'une salle d'audience. Comment ça se passe? Alors, où est-ce que vous mettez les couleurs après? Juste un détail technique, comment ça se passe?
Tout, dans l'idéal, tout doit se faire dans la salle d'audience. Parce que c'est pas comme un dessin de reconstitution, une illustration pour un livre, ça n'a rien à voir. Le dessin d'audience, ça commence dans la salle d'audience et ça se termine normalement dans la salle
normalement,
d'audience. C'est ce qui lui donne sa valeur. Après, vous pouvez rajouter des couleurs en catastrophe, parfois...
Comment ça se passe, le sujet, le dessin de vous qu'on voit en 16/9, calibré, orthonormé, aux 20h, vous l'avez envoyé comment? C'est un coursier qui l'a apporté? Vous l'avez photographié, vous l'envoyez?
Ce qui compte aujourd'hui, c'est la vitesse. Donc, j'ai un téléphone assez puissant, je fais tout pour prendre en photo mon téléphone, avec mon téléphone le dessin au bon format, avec une qualité pas trop mauvaise, et je l'envoie directement pour le 20h. Et sinon, parce que c'est compliqué, vous êtes contraint dans une salle d'audience, vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez, vous pouvez pas... ce qui vous manque, c'est l'eau, les pinceaux, la peinture, il y en a partout, enfin, oui, c'est des conditions extrêmes, et parfois, le premier jour, c'est arrivé pour Salah Abdeslam, on est resté enfermé, même pendant la suspension d'audience, la cour avait décidé que personne ne sortait. Donc là, c'est panique à bord, vous ne pouvez même pas sortir pour faire filmer vos dessins et les envoyer par sécurité, par les caméras, enfin, c'est toujours compliqué.
François Bouc, c'était en 2015 à la demande du journal Le Monde que vous avez suivi le procès du Carlton de Lille avec DSK et Dodo La Saumure, je le rappelle. 13 jours d'audience dont vous avez tiré un album. Vous dites que cela vous a passionné. Qu'est-ce qui vous a passionné?
Ce qui est passionnant, c'est de voir toute la fébrilité des individus qui sont là, ceux qui jouent une partie de leur vie, la recherche de la vérité de ce qui s'est passé. Ce qui est passionnant, c'est de voir aussi, du point de vue du dessinateur, de devoir faire vite. Et faire vite, ça demande à être tout de suite sur le qui-vive, parce que quand, par exemple, les audiences commencent à 9h le matin, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe. Donc, tout de suite, il faut être dans l'état d'esprit du dessin, de façon à épouser tout ce qui va se passer.
Vous avez raconté dans Le Parisien que les avocats venaient vous demander des dessins, que les prévenus vous surveillaient par-dessus votre épaule, et que DSK n'aimait pas trop votre façon de dessiner, parce que vous le faisiez trop bossu. Pourquoi vous l'avez fait bossu?
Ah non, il avait la tête dans les épaules, vous savez, un peu comme un rhinocéros, comme s'il voulait se protéger par sa carapace. Et donc, moi, je vois ça, je le dessine comme je le vois, comme je le ressens. Et donc, on a aussi l'opportunité, à chaque fois, de voir les gens venir pour regarder nos dessins. Ouais. Donc, à la fois les avocats, à la fois, bon, bien sûr, les accusés regardent par au-dessus leur box. Et des fois, on a des situations totalement... ubuesque, hein, je me suis retrouvé avec Paula, le principal prévenu de l'affaire de Charlie et d'Hypercacher, et qui intervenait sur mes dessins en disant ah non on mettait pas de couleur là, c'est directement il était en train de regarder mon dessin en train de se faire.
Est-ce que vous sentez, je reste sur le procès de la tuerie de Charlie Hebdo, est-ce que vous vous sentez investi d'une mission, celle d'un procès pour l'histoire dans lequel il faut être totalement objectif au plus près du réel? Je pose la question d'abord à Elisabeth de Pourquerie, je vous la poserai ensuite à vous, François Bouc.
Alors oui, on est au plus près du réel, mais il y a aussi une dimension dans ce procès historique, c'est quand même la résilience qui compte aussi. Les victimes, surtout pour Abdeslam, le procès du 13 novembre, des attentats du 13 novembre 2015, moi ce qui me frappe, c'est quand même toutes ces victimes, les familles des victimes qui sont dans la salle, sur certains dessins, je mets un point d'honneur à les mettre en valeur. Alors il y a ceux qui ont les cordons verts qui acceptent d'être filmés, les cordons rouges qui ne veulent pas du tout être filmés. On peut les dessiner, mais je fais en tout cas tout ce qu'il faut pour pas qu'on les reconnaisse. Et le dessin, c'est plus facile, évidemment, qu'une caméra. Et c'est important, en tout cas, c'est vraiment un procès pour l'histoire où la mémoire collective, on a un devoir mémoriel aussi en tant que dessinateur.
Vous ressentez la même chose, François Bouc ?
Oui, bien sûr, c'est important tout ça. Mais la position que j'avais adoptée dans le procès, c'était de me dire, il faut que je sois respectueux avec tout le monde. Mmh. Et donc, j'aurais pu faire de la caricature, accentuer les... Mais je trouvais que la meilleure posture, c'était celle d'être respectueux, y compris avec les accusés, de témoigner le plus proche possible de ce qu'ils disaient. Alors, parfois, ils étaient ridicules, parfois, ils étaient caricaturaux, mais j'ai témoigné de cette caricature avec respect, je dirais.
C'était d'autant plus dur pour vous, François Bouc, que vous étiez très ami avec Cabu, tué dans la fusillade.
Oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Donc, il y a des moments où... Et puis même les autres amis dessinateurs, quand ils se sont présentés à la barre, ceux qui ont survécu, c'était extrêmement émouvant. Vous êtes percutés par toute l'émotion qui se déploie. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que quand les gens arrivent à la barre, ils sont toujours très impressionnés par l'ambiance du tribunal. Et puis très vite, la parole se dénoue. Et ils disent des choses, et des fois ils disent des choses mais bouleversantes, et vous êtes en train de les dessiner, mais vous ils sont à 2 mètres de vous quand ils s'expriment.
Oui, ce que disait Elisabeth de Pourquerie.
Vous êtes percuté.
Elisabeth de Pourquerie, vous avez déjà flanché ou eu peur de flancher? Je sais que vous avez déjà flanché au procès Fourniret.
Ah oui, alors Fourniret, c'est... Voilà, là on est dans la série des... Enfin, il y a différents types de procès. Fourniret, pour moi, c'est la catégorie des serial killers. Et c'est vrai que c'est sûrement le pire de ce que j'ai vu dans ce domaine, et notamment ses mains. C'est vrai que les mains de Fourniret, c'est vraiment à dessiner. Déjà, en dessinant, on tremble.
D'un mot, je suis obligé de vous poser la question rapidement. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a le projet de laisser entrer les caméras dans les tribunaux. J'imagine que vous êtes opposé.
Il y a des garde-fous. Moi, je comprends qu'on veuille voir un procès à la télévision, et même c'est plutôt au niveau pédagogique assez positif. Mais en même temps, il y a des garde-fous. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des dessinateurs. De toute façon, aux États-Unis, les procès sont autorisés. Il y a quand même des dessinateurs dans les prétoires. Donc aujourd'hui, en France, il n'y a pas à s'inquiéter parce que de toute façon, il y a des garde-fous. Et même si la loi passe, de toute façon, après les recours, donc l'appel, la cour de cassation, ça fait au moins 3 ans pour un procès. Donc,
d'un mot, vous irez au palais de justice aujourd'hui ?
Oui, ah bah,
donc on verra vos
j'ai
dessins.
Tout mon matériel, je suis prête à y aller.
On verra vos dessins ce soir, certainement aux 20h. Merci d'avoir été avec nous, Elisabeth de Pourquerie. Merci, François Bouc, d'avoir été avec nous. Et je rappelle le titre de cet album, Janvier 2015, Le Procès, co-signé avec Yannick Enel au texte. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue. Il y aura le rappel des titres de 10h et puis Bruno Donnet pour ses télescopages. Et cette fois-ci, ce sont des trains qui vont se télescoper. Je ne vous dis que cela. Il va débugger une petite fake news qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs. Notre invité, Frédéric Becbédé, l'écrivain, mais pas seulement, pour son spectacle, un DJ set littéraire. C'est quoi un DJ set littéraire? Et bien, il va nous dire. Dans Les Indispensables, une rencontre qui fait frémir la scène musicale. Ce sera avec Stéphanie Loire et Margot Barallon. Va nous parler d'un grand classique de la science-fiction enfin au cinéma. Dune, tout le monde l'attend, ça vaut quoi? Elle nous dira. En fin d'émission, l'imitateur Marc-Antoine Lebray, à tout de suite sur Europe 1.